Il est minuit 12 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Paul au 39-21. Bonsoir Paul.
Oui, bonsoir Olivier, je vous
bonsoir.
Entends. J'ai mis le haut-parleur, est-ce que ça ne vous gêne pas là ?
Non, écoutez, tout va bien pour l'instant, je vous dirai si
on m'a demandé de ne pas mettre le haut-parleur, mais voilà.
Bon, écoutez, ça va, hein, Philippe, ça va ?
Ouais, ouais.
Bon, très bien.
Ouais.
On vous écoute, Paul.
On vous a fait un petit topo, je pense, de mon histoire.
Oui, mais ce qui est important, c'est que vous la racontiez à celles et ceux qui nous écoutent.
Oui, tout à fait, mais c'est, vous savez, c'est 60 ans d'histoire. Moi, j'ai 65 ans.
Oui.
Bah, c'était par rapport aux violences familiales, parce que moi, j'ai connu ça. Et puis, moi, j'ai été aussi plus... Ma mère a connu 35 ans de violences conjugales.
Oui.
De 1958 à 1993. C'est moi qui ai mis un terme, hein, d'ailleurs. Et j'ai pas eu le choix. Hein. Donc, parce que ma mère avait fait une tentative de suicide déjà en juillet 75. À cette époque-là, à partir de là, elle n'a plus été battue, mais elle a continué à subir de la torture psychologique, la torture mentale, jusqu'en septembre 93.
Vous avez été, vous, donc, témoin de ces violences faites à votre maman. À partir Allez-y,
oui.
Dites-moi, à partir de quel âge vous êtes témoin de ça ?
À partir de 1959, soit 1960, on était en Algérie à l'époque, hein, pendant la guerre.
Oui.
Et donc les premières disputes ont commencé à cette époque-là. Et donc nous, on s'est tous retrouvés en Algérie. Hein, donc bon, mon petit frère n'était pas encore né. Mon petit frère est né en 65, donc après la guerre.
Oui.
Et moi, quand je me suis retrouvé en Algérie, j'avais 3 mois. Et mon frère, 2 ans et 3 mois, parce qu'on est tous les deux du mois de janvier.
D'accord. Et donc, hein? Du coup, vos parents sont partis vivre là-bas ou c'était pour la guerre d'Algérie qui s'était déplacée là-bas ?
Ah oui, c'était pour la guerre d'Algérie.
D'accord, mais votre père faisait quoi ? Il était militaire ? Enfin, pourquoi
Ah oui, c'est ça, ouais.
D'accord.
Ouais.
Donc, tout le monde est allé à déménager là-bas ?
Ouais. Et okay. Donc, on est resté 4 ans. On est revenu en juillet 60.
D'accord. Et donc, les violences ont commencé là-bas ?
Oui, alors bon, il faut voir aussi le climat de l'époque. Hein. Moi, je suis un peu historien de la guerre d'Algérie. Hein. J'ai lu plusieurs bouquins sur la guerre d'Algérie. Je suis historien aussi de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, bref, voilà. Moi, j'ai passé ma vie à étudier. Hein. Donc, voilà, j'ai beaucoup d'instructions dans plein de domaines. Et surtout que je ne travaille plus, moi, depuis 2005. Et donc, j'ai arrêté de travailler définitivement à 49 ans. Alors, j'ai travaillé un peu partout. Un peu partout en France, hein, à cause de la précarité, voilà. J'ai passé mon temps à chercher du travail. Enfin, bref, je reviens aux violences familiales.
Oui.
Donc, alors moi, j'ai un frère aîné qui a donc 2 ans de plus que moi.
Oui.
Et j'ai mon frère cadet qui a 10 ans de presque 10 ans de moins que moi.
D'accord.
Voilà. Et nous, donc. Il faudrait que je vous lise, parce que moi j'ai écrit des livres. Hein. D'ailleurs,
expliquez-moi ce qui s'est passé à l'époque. Vous étiez au cœur des violences, donc vous étiez témoins tous les trois.
Pas toujours, parce que moi j'étais un enfant des rues. C'est-à-dire que moi j'ai vu ma mère se faire tabasser,
oui.
les menacer, tout ça, des insultes, des menaces, et pendant tout le temps, quoi.
Et donc, vous me disiez que donc il faisait ça devant vous, votre père, parfois ?
Ben, pas devant mes frères, mais uniquement devant moi.
D'accord.
Et je sais pourquoi il faisait ça. Il se gênait pas pour tabasser ma mère devant moi. Et j'ai vu ma mère aussi piquer des crises de nerfs à 2 reprises. Quand on est revenu d'Algérie, on s'est installé à Lannester, à côté de Lorient,
oui.
Que vous connaissez.
Oui, je connais, oui, complètement.
Et voilà. Bon, et donc, parce qu'il était affecté à la base de Langiwe.
D'accord. Et donc, du coup, ça a continué là-bas ?
Ouais, ça allait crescendo. Hein. Vous savez comment ça commence, hein.
Ouais,
ça commence par des disputes, puis ça finit par des coups, et voire pire quelquefois. Donc,
il buvait, votre père, ou il était
violent ? Oui, il buvait, oui. Il n'a jamais été ivre, j'ai jamais vu ivre, mais il buvait environ une bouteille de vin rouge par jour.
Et il était violent quand il commençait à avoir trop bu ?
Non, mais de toute façon, il avait tout le temps de l'alcool dans le sang.
D'accord.
Mais il buvait tout le temps de façon régulière. de façon régulière, mais il n'a jamais pris de cuite, si vous voulez.
D'accord.
Mais il ne buvait que du vin rouge pendant, je ne sais pas à partir de quel âge il a commencé. Mais le problème, c'est pas sa seule terre, parce qu'en fait, le paternel, c'était un pervers narcissique.
D'accord. Et lorsque vous dites qu'il a continué tout le temps, en fait, personne ne protégeait votre mère, à part vous, à l'âge de 17 ans ?
Non, parce que tout le monde était au courant de ce qui se passait chez nous. Les voisins, les assistantes sociales. Moi, j'avais ma marraine à l'époque qui était assistante sociale chef des Côtes d'Armor. Elle n'a rien pu faire pour nous. La police était au courant. La police a débarqué chez nous en 71 pour l'arrêter. Puis finalement, ils sont repartis sans lui. Parce qu'il lui a montré ses papiers. Moi, je n'ai pas assisté parce que c'est moi qui ai appelé la police. J'ai fait le 17. Il y avait une cabine téléphonique à l'époque au bout de notre impasse. Oui. En plus, on est dans une petite rue. Il n'y a que 16 maisons dans cette rue-là, un quartier nord de Brest. Et donc, ils sont arrivés assez rapidement. Et moi, je suis resté les attendre dehors. Et donc, après, ils sont partis. Et je les ai arrêtés au bout de la rue. Je leur ai expliqué brièvement ce qui se passait. Et j'ai dit, il nous menace de mort, il est violent. Et, tôt ou tard, il finira par tuer quelqu'un. Et les flics, ils m'ont rien répondu. Ils sont repartis, complètement indifférents.
Et, quand il a montré sa carte de militaire, je suppose.
Ah bah j'imagine.
Mmh. Ouais. Alors vous dites
puis,
que...
En plus, en tant qu'ancien combattant, il était mécanicien avion, lui, sur la base de l'Artigue, à Oran. Hein. Il y a Marcel Kébir, qui n'est pas loin non plus. Donc dans l'aéronaval, en fait. Hein.
Et vous dites que vous avez mis fin à ces violences.
Ouais. Il s'est passé plein de choses avant ça. Il s'est passé plein de choses. Parce qu'en fait... Donc nous, après la visite de la police chez nous, c'était après le repas, donc il devait être 20h, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai attendu après 11h du soir pour rentrer à la maison, parce que je me suis dit, il va être furieux contre moi, le fait d'avoir appelé la police, quoi. Et donc, voilà, je suis rentré, moi, il était couché. Et donc, mon frère et moi, quelques jours plus tard, on dit, personne ne bouge. Personne ne bouge. Alors, mes profs étaient au courant aussi à partir de 72. Enfin, là, on était encore en 71. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Personne ne vient à notre aide. Et donc, on s'est décidé on a tenté de l'empoisonner avec un produit anti-rouille. Voilà, c'est tout ce qu'on avait trouvé. C'est mon frère qui avait trouvé ça dans le garage, je crois. On prend un produit anti-rouille. Ça n'a eu aucun effet parce qu'il s'est rendu compte de suite que son vin avait un goût bizarre. Il s'est levé brutalement de table. Hein. C'était à table le soir. Il a vidé la bouteille et puis son verre dans l'évier, quoi. Et il nous a fait une réflexion. Parce qu'il a compris. Il a compris qu'il nous a soupçonné immédiatement qu'on avait mis quelque chose dans son vin.
Et qu'est-ce que vous aviez mis ? Qu'est-ce que vous aviez mis ?
Du produit anti-rouille.
D'accord.
Ouais, mais si on avait du cyanure, on aurait mis du cyanure.
Et ça, en fait, vous saviez que ça pouvait le faire mourir, le produit anti-rouille, vraiment ?
Ben, on ne savait pas trop, mais il y avait une tête de mort sur le flacon.
Ah oui, d'accord.
Mmh. Et donc, en fait, comme c'est complètement altéré l'odeur du vin, la saveur du vin, il s'en est rendu compte, il a avalé à peine une gorgée, quoi. Mais en fait, il a rien vu, il n'a pas été malade. Et donc, voilà, et puis, tout a continué comme avant. Et bon, ça, évidemment, c'est resté. Il n'a pas été porté plainte. Il aurait très bien pu aller faire analyser la bouteille, mais ce serait retourné contre lui. Il n'était pas idiot. Hein. Donc, voilà. Et puis, ça a continué comme ça. Et puis, moi, je suis parti. J'ai devancé l'appel pour faire le service militaire. Je me suis retrouvé faire mes classes à Bordeaux-Mérignac, près de Bordeaux.
Oui.
Et j'ai demandé, j'étais inquiet parce que mon frère était parti en 72. Hein. Je suis parti faire mon service militaire en décembre 74, donc à Bordeaux-Mérignac.
Oui. Oui.
Et arrivé là-bas, au bout de 15 jours, j'étais inquiet pour ma mère et mon petit frère qui restaient seuls à la merci du paternel. Et donc j'étais voir un officier conseil, je lui ai expliqué la situation familiale. Et puis, 15 jours après, ils m'ont fait... et j'ai eu un rapprochement familial. Je me suis fait retrouver basé au radar de Bretagne, à l'Opérette, à 10 km de Brest. Et je ne savais même pas que ce site de l'armée de l'air, le seul en Bretagne, je crois, je ne savais pas que ça existait. Donc j'étais content de me rapprocher et de pouvoir éventuellement intervenir en cas d'urgence. Mais bon, ça s'est mal passé aussi, mon service militaire. C'est encore un mauvais souvenir. Mais bon, je suis parti. Donc je suis revenu à Brest, donc au radar de Bretagne, en janvier 1975.
Oui.
Et ma mère a fait une tentative de suicide en juillet 1975. J'avais fait 8 mois d'armée, moi, à ce moment-là. Et j'ai été prévenu, je crois que c'est par ma tante, la sœur de ma mère. Donc je suis allé la voir à l'hôpital. Bon, elle a été sauvée, hein, elle est restée 15 jours à l'hôpital. Et puis, bon, personne n'a porté plainte. Hein. De toute façon, personne de ma famille n'a porté plainte. Parce qu'on sait qu'on peut rien faire. On pouvait rien faire à cette époque-là contre ces gens-là. Donc, ça ne nous est même pas venu à l'esprit, d'ailleurs. Hein. Et ma mère n'a jamais osé porter plainte non plus. Donc, parce qu'elle souffrait du syndrome de Stockholm, hein, et, bien sûr. Hein, c'est comme toutes les femmes qui sont prises en otage. Hein, donc, voilà. Et alors, il y a eu un drame aussi après. Parce qu'après, moi, j'ai... peu de temps, quelques mois après l'armée, j'ai trouvé du travail à Brest, chez un fabricant d'enceintes acoustiques mondialement connu. Bon, je ne vais pas citer le nom. Et là, j'ai tombé sur... j'ai eu affaire à du harcèlement moral pendant un an et demi.
Oui.
Pendant un an et demi. Et puis, j'ai fini par faire une décompensation. Je me suis fait... Alors, ça a abouti à un drame. Ça a abouti à un drame terrible. Je me suis fait agresser par 3 voyous dans le Nord Finistère. Et j'ai riposté, j'en ai tué un des 3. Donc, je me suis retrouvé en prison aussi pendant 16 mois. Voilà. Et donc, avec une inculpation de meurtre au départ. Hein. J'étais inculpé de meurtre d'office avant même d'avoir été interrogé. C'est-à-dire qu'en fait, la police s'est basée sur les déclarations des 2 autres agresseurs. Enfin, bref, voilà. Donc
vous êtes allé en prison pour ça ? Ouais.
Ah bah oui, j'ai fait 16 mois aux assises. Parce que donc, finalement, après l'étude du dossier, le dossier a été transmis à la chambre de mise en accusation de Rennes. Et là, l'inculpation, parce que les expertises ont démontré que c'était accidentel. Donc, voilà. Donc, je suis passé au tribunal, aux assises de Quimper le 20 septembre 1979. Et là, j'ai été condamné à 1 an ferme, plus de 2 ans avec sursis et des dommages et intérêts à payer que je n'ai jamais payés. Parce que moi, je refuse de payer pour les autres. Parce que si le drame est arrivé, c'est à cause de tous les gens qui m'ont persécuté. C'est-à-dire que ce soit dans le milieu familial, que ce soit à l'armée et au travail. Et en fait, là où j'étais le plus heureux, finalement, c'est quand j'étais en prison. Parce que mon calvaire était terminé. Oui. Et mon calvaire, il a réellement commencé quand j'avais 10 ans, en 1966, parce que j'ai contracté la tuberculose à l'Anester. Et ça m'a coûté 19 mois de préventorium dans un petit village qui s'appelle Kerlaz, à côté de Douarnenez. Et c'était un véritable bagne pour enfants. Et enfin, bref, voilà.
On voit en tout cas combien ces violences au sein du milieu familial vous ont heurté, hein, vous ont impacté. Hein.
J'en subis toujours les conséquences parce que maintenant je me retrouve. J'ai pas pu travailler beaucoup d'années. Et bon, alors j'ai fait plein de petits boulots à droite et à gauche. Je suis électronicien de formation. Et j'avais juste un BEP d'électronique au départ. Bon, après, j'ai fait une formation technicien radio-télévision ici. Puis après, j'ai fait une formation à la FPA de niveau BTS en électronique. Quoi. Et bon, j'ai passé mes permis poids lourds également, bien plus tard. J'ai un brevet de pilote ULM professionnel. Bon, enfin, tout ça, ça n'a pas... Enfin bon, j'ai réalisé mon rêve de gosse quand même en réalisant mon rêve d'Icar. Voilà. Bon, j'ai pas pu trouver de travail non plus là-dedans. C'est un milieu, c'est particulier aussi, hein, ce milieu-là.
Mais vous essayez de travailler toujours un peu ?
Ah non, ça fait 15 ans que je travaille plus. J'ai arrêté définitivement de travailler le 5-5-5.
Et vous vivez de quoi ?
J'ai eu la hache pendant 10 ans, là, jusqu'en 2018.
Oui.
Hein, parce qu'en fait, au départ, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai fait une dépression parce que j'ai appris le décès de mon ex-compagne. Qui est morte de manière non naturelle à 42 ans. Et Donc là, j'ai jeté l'éponge. J'ai jeté l'éponge, mais bon, j'ai fait une dépression. Et donc, je suis resté en longue maladie pendant 3 ans. Donc là, j'ai eu les indemnités de la sécurité sociale. Et puis après, j'ai fait une demande d'AH parce que j'étais complètement rincé au bout du rouleau. Et voilà, donc j'ai eu l'AH pendant 10 ans. Et puis, on savait que ça s'arrête à 62 ans. Hein. Après 62 ans, guéri ou pas guéri, vous n'avez plus le droit à l'AH. Ouais. Mais c'est les caisses de retraite qui prennent le relais. Alors, ça a été un combat aussi hein, pour obtenir ma retraite. Ça a été pas mal de problèmes. Et bon, enfin, là, maintenant, ça, c'est la question est réglée, mais j'ai que le minimum vieillesse, quoi. Donc, alors, j'ai que le minimum vieillesse pour vivre maintenant, et je me retrouve en HLM. Voilà. Donc, et là, je ne supporte plus de vivre à Brest, je ne supporte plus. Je ne supporte plus, c'est une ville que j'ai toujours détestée, et pour cause.
Et pourquoi ? À cause des violences ?
En fait, ouais, parce que la pire année qu'on a connue, nous, c'était 1971. Et là, on était arrivé à nous entretuer. Hein. Et tout le monde était au courant, nos voisins, parce que moi, j'avais des copains dans la rue, je leur en ai parlé, et puis eux, ils racontaient à leurs parents après. Oui. Et d'ailleurs, personne n'adressait la parole à mon paternel. Hein. Hein, personne. Et puis j'ai eu des renseignements aussi, j'ai réussi à avoir des renseignements sur son comportement lorsqu'il était... dans l'armée à l'Andivisio, parce qu'après, quand on a quitté Lorient pour... puisqu'il a été muté à la BAM de l'Andivisio,
oui.
Donc à 40 km de Brest. Et il se trouve que moi, j'ai rencontré dans une association un copain dont le père était un collègue de travail de mon paternel, et avec 10 ans d'écart. Et d'ailleurs, ils sont morts tous les deux la même année, en 2010. Et donc voilà, voilà, c'est terrible parce que. Alors, ma famille était complètement détruite, hein. C'est-à-dire que là, moi j'ai pu, depuis des années, mes frères et moi, on ne se voit pas, je ne sais pas ce qu'ils deviennent, je sais où ils sont, parce que ma mère, qui est en maison de retraite à Quimper, de temps en temps, elle a des nouvelles, de temps en temps. Et mon frère aîné, il est sur Lyon, il est à Écully, hein. Il est devenu policier municipal vers l'âge de 43 ans. Ben, il a fait pas mal de choses auparavant. Hein. Mais ils sont tous les deux partis à l'étranger. Hein. Mon frère aîné est parti en Israël. Il voulait s'engager dans l'armée israélienne. Enfin, bref, il était resté 8 ans en Israël.
Bon, donc en tout cas, vous, Paul, aujourd'hui, vous menez votre petite vie et tout s'est calmé quand même. Là, vous n'avez plus affaire à la justice. Vous êtes plutôt dans une situation stabilisée.
Ah non, pas vraiment. Bah non, stabilisé, pas sur le plan psychique en tout cas.
D'accord.
Et puis sur le plan matériel, bah c'est pas.
Et sur le plan terrible, sur le plan psychique, vous voyez quelqu'un un peu, vous consultez?
Ah bah oui, j'ai vu une psychologue là 5 ou 6 fois par téléphone d'ailleurs parce qu'il y avait la pandémie. Mm-hmm. Mais en fait, je voudrais faire comprendre, aux gens que. On se bat contre des moulins à vent, quelquefois. Hein.
Oui. C'est souvent compliqué. En plus, comme ça a commencé difficilement pour vous, c'est vrai que ça a dû avoir de toute façon un impact certain sur votre vie. Et difficile de raccrocher les wagons hein, quand on a connu ça jeune. En tout cas, accrochez-vous, mon cher Paul. Accrochez-vous, d'accord ?
Bah oui, mais le problème, c'est que. Ma famille a été détruite et de ça on ne s'en remet pas.
Oui.
Hein? Et parce que justice m'a pas été rendue et j'ai monté un dossier civil l'année dernière. Bon, il y avait prescription de toute façon donc ça n'a pas abouti. Hein. Mais j'avais le droit de le faire, je l'ai fait. Et parce que j'avais une preuve de la plainte parce que lorsque j'ai réglé, quand j'ai mis un terme au calvaire de ma mère, quelques jours auparavant, 15 jours environ, j'avais déposé une plainte au parquet de Brest. Une plainte de 6 pages. Et ils n'ont pas donné suite. Et c'est pour ça que je suis intervenu. Et là, je dis, j'avais peur pour ma mère, et que je voyais tous les mercredis à ce moment-là. Et j'avais peur, elle se plaignait toujours. Donc, je suis intervenu. J'ai fait un peu de casse. Donc, j'ai su qu'il n'y avait personne à la maison. Donc, j'en ai profité. Je suis rentré par effraction. J'ai fait un peu de casse. Et un quart d'heure après, je suis allé au commissariat central pour déclarer mon forfait.
Oui.
Et dans le but
d'attirer l'attention.
C'est-à-dire que mon but c'était d'abord de faire arrêter le calvaire de ma mère Ensuite, je ne me cache pas pour me venger de pour le, tout le mal, tout le mal qu'il nous a fait. Oui. Mais c'est pas tellement après lui qu'ils en veulent. C'est contre tous ceux qui l'ont protégé, qui sont des anonymes. Mmh. C'est ça le problème. Et donc, le troisième but, c'était de l'envoyer au tribunal parce qu'il a porté plainte contre moi. Et c'est ce que je voulais. Il a porté plainte contre moi. Mais quand elle est une demi-heure après, on a failli se rencontrer, on a failli se croiser quand je suis parti de la maison. Et donc, quand il a vu les dégâts, il a filé au commissariat. Et donc, quand il est arrivé là-bas, les flics, ils savaient ce qui lui était arrivé, quoi. Et donc, il a porté plainte contre moi. Et c'est ce que je voulais. Mais seulement, voilà, finalement, il a retiré sa plainte contre moi. Et puis, ma plainte à moi n'a pas abouti non plus. Ça a été aux oubliés de judiciaire. Hein, donc,
bon, en tout cas, l'important, c'est que vous ayez réussi à couper au moins le fil des choses et faire intervenir la police pour votre mère. Et pour ça, je vous félicite, mon cher Paul. Merci, en tout cas, d'avoir intervenu sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Et puis, je vous souhaite, bien évidemment, plein de courage. Il y a beaucoup de monde qui appelle ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Donc voilà, je vous embrasse et passez une bonne nuit. Au revoir.